enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La sanctification donc évolutive va vous donner de faire un travail dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. J'ai d'abord cité les fois précédentes ce qui souille le corps. Je rappelle simplement les passages qui disent cela. La Bible dit, 2 Corinthiens 7:1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 1 Thessaloniciens 5:23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Donc, ce passage montre qu'il y a différents niveaux de souillure et de sanctification. Amen. Si vous voulez grandir avec le Seigneur, il faut que vous sanctifiez votre corps. Amen. La sanctification du corps va consister à sanctifier tout ce qui agit au travers de vous, au travers de vos cinq sens. Les cinq sens sont les sens physiques, n'est-ce pas? L'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe, le goûter. Amen. Voilà. Donc si par exemple quelqu'un mange n'importe quoi, il souille son corps aussi. Ce que la Bible cite dans le Nouveau Testament sont les excès de table. Vous voyez? Ce sont les excès de table. Tu fatigues ton corps, tu détruis ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La cigarette, la drogue sont des souillures pour le corps, mais qui rentrent par la bouche, par le sens du goûter. Amen. Alléluia. Et Daniel, que nous prenons comme exemple, a refusé de se souiller. En Daniel chapitre 1, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il faut veiller à cela. Alléluia. Il faut vous garder des excès de table. Trop de chrétiens sont légers avec ces choses-là. Ce n'est pas ça qui est important. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort du corps de l'homme, c'est ce qu'on dit. C'est pas ça? Ce qui sort de toi qui souille. Mais ce dont le Seigneur est en train de parler, s'il parle de l'âme, de la souille de l'âme, ça ne veut pas dire que dans notre corps, on ne doit pas avoir certaines attitudes. La Bible parle aussi ce qui souille notre corps, ce que nous regardons. Dieu le symbolise en disant, gardez-vous de la convoitise du monde et la convoitise des yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des choses que tu regardes qui souillent ton corps. Qu'est-ce que tu écoutes? Quand nous prenons l'histoire de Daniel qui a été distingué par Dieu, il a pris une décision par rapport à sa vie. Alléluia. Ce que Daniel voulait éviter, d'autres croyants le faisaient. Daniel dit, moi je ne touche pas de vin. Je n'en prends pas. Mes amis, vous êtes déjà saints. Si vous voulez ouvrir la porte de Dan, il faut que vous fassiez des efforts. Il faut que vous décidiez que votre corps ne va pas se souiller par certaines choses. Et que vous soyez violent avec cela. Violent sur vous-même pour entrer pleinement dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des choses qui doivent être là, manifestées pleinement dans nos vies. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Trop de gens aujourd'hui viennent à l'église et prennent du plaisir à écouter les musiques du monde, les choses qui souillent leur corps. Qu'est-ce que ça te donne? Amen. Et comme je l'expliquais la dernière fois, la Bible déclare que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Jésus, la Bible dit, tu nous sanctifies par ta parole. Ce n'est pas le fait d'écouter la parole de Dieu qui nous rend saints. Ce n'est pas le fait d'écouter simplement, c'est le fait de lancer la parole de Dieu entrer dans notre cœur. Le passage qui nous parle de la parole comme étant une semence, Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 8, dit ceci. Ceux qui reçoivent la parole, en qui la parole de Dieu a de l'effet, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec honnêteté. Amen. Littéralement, c'est quoi? Si par exemple je viens et je dis, en ce qui concerne les souillures de la parole, hein, même de la bouche, parce qu'on parle aussi, c'est de bavarder, de dire n'importe quoi. Même si ce ne sont pas des choses qui sont péchés. Lisons 2 Timothée, s'il vous plaît. Pas 1 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 14. Voilà ce que le Seigneur dit. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. Qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes. Profane, c'est ce qui n'est pas saint. Amen. C'est ce qui n'est pas pur. Dieu dit d'éviter les discours vains. J'ai parlé des cinq sens, tu vois. Donc de ta bouche, qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas dit d'éviter les discours de péché. Il dit d'éviter les discours vains et profanes. Profane, c'est ce qui n'est pas saint. Allez vous asseoir avec les gens et discutez longuement des événements, de la politique. Ça vous souille. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise dans ce genre de choses-là. Tu vas t'asseoir. J'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Mais sache que tu es un saint. Et tu dois savoir te tenir. Amen. Tu vas t'asseoir, vous allez voir les gens qui vont être là. J'ai dit si. Drogba, il va m'aider. Lui, on dit qu'il est le meilleur footballeur. Puis tu es un chrétien, puis tu parles dans ce genre de choses-là. Tu te mets en retard dans ta vie chrétienne. Amen. Tu te mets en retard dans ta vie chrétienne. Discuter de politique, j'ai dit. Voilà, tu sais, c'est solo ici, c'est solo. C'est pas bon, solo. À la somme, on t'en a tout. Et la Bible dit que les chrétiens qui évoluent dans ce genre de choses sont retardés dans leur marche. Il dit, évite, verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène de ce homme sans Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Hyménée et Philette sont des gens qui marchaient dans la droiture de Dieu. Mais ils aimaient discuter. Et puis subitement, à force, ils ont commencé à entrer dans l'impiété. C'était pas qu'au début, ils n'étaient pas pieux. C'était des croyants. Ils avaient acquis la sanctification de position. Mais ils ont commencé à discuter des discours vains et profanes. Et après, quand vous discutez, à un moment donné, ils ont commencé à sortir des doctrines bizarres. Il y a des gens comme ça, ils discutent jusqu'à un moment donné, ils se lèvent. Jésus n'est pas Dieu. Vous connaissez, ils disent, tu discutes, et à un moment donné, ils finissent par dire n'importe quoi. Jésus n'est pas Dieu. Comment Jésus n'est pas Dieu, toi aussi? Amen. Mes amis, gardez-vous de ce genre de choses. Gardez-vous d'être des discuteurs. Des gens qui prennent le temps pour disputer des propos vains inutiles. Ça vous souille. Ça souille votre corps. Il dit, néanmoins le solide, verset 19, néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20 maintenant. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, parle de quoi? Ce qu'on vient de citer. Les discours vains, profanes. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, donc les discours vains et profanes rendent impurs. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Dis ma maman, vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Les chrétiens croient que souvent la souillure du corps consiste simplement à aller commettre l'adultère, commettre l'impudicité, mentir, tricher. Mentir, c'est un péché. Mais tu peux discuter pour puis tu mens pas. Mais qu'est-ce que tu tiens comme propos? Des discours vains, des discours profanes. Ça veut dire des discours qui n'aboutissent à rien. C'est pas tes débats sur la politique qui vont changer le pays. Tu discutes avec les amis, c'est juste passer le temps. Vous allez crier. Après avoir fini de crier, Babo reste comme il était. Soro est la même chose. Tout le monde est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est vain. Ça veut dire que ton débat n'apporte rien à personne. C'est juste pour vous chauffer un peu, pour vous crier, pour vous ambiancer. Ok? Est-ce qu'on appelle des discours vains? Ça veut dire ce qui n'a pas de fruit. Ce que tu sais qui n'a pas de but. C'est une perte de temps et d'énergie. Tu t'assois avec quelqu'un, vous discutez pour ne rien dire. Frère, tu vas avancer dans l'impiété. Des discours vains. Ta camarade, vous parlez de rien de bon. Et tu sais, oh. Les coiffures, comment on dit, affairage. Affairage, ce sont des discours vains et profanes qui vous font avancer dans l'impiété. Tu es là en train de discuter, tu dis, est-ce que j'ai péché? Non, tu n'as pas péché, mais ce que tu dis là, ça t'amène. Qu'est-ce que tu gagnes? Oui, tu es au courant de la nouvelle, oh? Il y a quoi? Tel pasteur là. Oui, un tel somme. Tu comprends? Tu sais qu'elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Généralement, quand on parle d'affairage, mais il y a des hommes qui sont affairés aussi. Vous savez, c'est bien que la femme aime parler avec ses amis. Mais ce n'est pas pour critiquer. Dieu a donné à la femme une très grande capacité d'observation. C'est pour l'utiliser pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour discuter des choses vaines. Sachez utiliser votre don. Ne le gaspillez pas à parler de futilité. Initialement, ce n'est pas de, comment on dit, de l'affairage. C'est un intérêt vis-à-vis de tout ce qui est autour d'elle. Les choses qui se passent autour d'elle dans son environnement l'attirent. Mais ce n'est pas pour critiquer. C'est pour regarder ce qui ne va pas et apporter des solutions. Amen. C'est pour savoir que, madame, tu remarques facilement que... Tu as vu aujourd'hui comment le frère était habillé? C'est ce que nous, on ne voit pas. Dieu vous a donné la capacité de voir. Une femme, c'est extraordinaire. Hein? Si un homme arrive devant ici, moi, par exemple, je remarque jamais le doigt des gens. Souvent, je parle à des soeurs. Elle dit, oui, on a constaté, n'était pas mariée. Je dis, mais comment tu as su ça? C'est-à-dire, dès qu'elle regarde la personne, autant qu'elle écoute le message, elle regarde le doigt, elle regarde les chaussures. En même temps, elle écoute la parole. Mais tout est. Tout. Et elle se donne une idée de la personne. En fait, si vous remarquez comme ça, tu as remarqué que, par exemple, aujourd'hui, il y a longtemps qu'il porte telle chose, qu'il n'arrive pas à changer, tu vois. C'est pas pour aller critiquer, pour dire, mais lui là, c'est toujours la même chemise. Il porte. En fait, c'est juste pour toi aller lui offrir une nouvelle chemise. C'est juste pour ça. Pour toi constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pas pour en parler. Alléluia. Quand tu constates qu'il y a quelque chose, tu es là et puis tu remarques, pendant que le culte se passe, tu vois des détails qui ne fonctionnent pas bien. Pendant que tout le monde, tu suis le message, mais en même temps que tu écoutes la parole, tu vois tout ce qui ne marche pas. Tout. Tu perçois ça. C'est une grâce de Dieu. Généralement, la plupart des hommes, quand ils arrivent, ils savent c'est une chose de la foi. Ils parlent, on écoute la prédication, un point, un trait. Tout est à côté, on n'en voit pas. Mais toi, tu remarques. Toi, tu vois. C'est juste pour remarquer, pour prier, et puis après, pour apporter une solution. Pas pour faire des discussions vaines et profanes qui vont t'éloigner de ton Dieu. Amen. Si tu as compris, fais comme ça. La Bible cite comme souillure du corps la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. C'est ce qui a amené Ève à pécher. Amen. La convoitise des yeux. Alléluia. C'est normal de se promener quelquefois, bon, d'aller, d'observer, de voir. Moi, au début, je ne comprenais pas. Quand je parle avec ma femme, j'ai des problèmes pour aller au supermarché. Avec les femmes. Les mariés savent ça. Je connais certaines femmes qui ne sont pas comme ça. Hein. Elle, la vie les a formées un peu comme des hommes. La femme, quand elle va au supermarché, elle veut tout toucher. Elle va regarder tes produits. Oh, tu vois, c'est joli ça, chérie. Oh, oh. L'homme a envie de dire, j'ai dit, on n'est pas venu acheter. Allons. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Un homme, quand il rentre au supermarché, il sait pourquoi il est dedans, ce qu'il va prendre. Et quand il a fini, il sort. Mais la femme, elle, pour aller prendre ce qu'elle doit prendre là, elle va regarder les assiettes, elle va regarder les habits, elle va regarder ceci, jusqu'à arriver. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas aller dans les supermarchés. Alléluia. C'est une capacité d'observation. Mais ce n'est pas mauvais. En fait, généralement, quand une femme arrive dans un endroit comme ça, l'homme ne sait pas ce qu'elle fait. Mais la femme, normalement, elle emmagasine dans son esprit pour plus tard les prix des produits, les éléments. Et de sorte que, en fait, elle a un manque de données. Le jour où elle a besoin de quelque chose, elle sait dans quel endroit trouver, où le trouver, et elle va vite. En fait, c'est juste pour avoir des banques de données. Alléluia. C'est pourquoi les hommes ont venu te demander, chérie, où on vend? Tu sais où on vend tel produit? La femme dit oui, elle sait où on vend. Parce que le jour où c'est au supermarché, toi tu as allé droit au but. Elle, elle a pris le temps de regarder tous les autres rayons. Et elle savait que dans tel rayon, il y a telle chose, dans tel magasin, il y a telle chose. Mais toi, tu ne sais pas. On peut acclamer pour nos soeurs. Alléluia. Amen. Parce que la femme a l'entretien. Mais ça, ça peut se pervertir. Ok? Ça peut être maintenant en convoitise. Et tu regardes, convoitise des yeux. Le jour, j'aurai ça. Le jour, j'aurai ça. Le jour, j'aurai ça. Tu vois? Donc, tu as perverti un don naturel que Dieu t'a donné en convoitant, en voulant obtenir de manière charnelle, en étant prêt à te corrompre pour obtenir les choses que tu vois, les robes que tu vois, les chaussures que tu vois. Si tu observes juste que la chaussure te plaît, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais si ça doit manifester dans ton cœur une attitude de corruption, au point de te livrer à des choses, à des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, pour obtenir ce que tes yeux ont vu, alors là, tu es en train de compromettre le don de Dieu. Fais attention à la convoitise, c'est cela la convoitise des yeux. Amen. Alléluia. Ça n'est pas dit de ne pas regarder dans les vitrines des belles robes, voir ce qui est joli, tu regardes, et tu sais que quand tu es prêt, tu vas venir prendre. Amen. Amen. Donc ne vous culpabilisez pas, mais aussi ne partez pas de l'autre côté. Alléluia. Donc voilà un peu différents genres de choses qui souillent le corps pour lesquelles il faut être rigoureux, il faut être vigilant, sans parler des péchés les plus évidents que j'ai cités dernièrement, l'impudicité, le mensonge, le vol, la tricherie et toutes ces autres choses-là qui souillent le corps de l'homme. Amen. Alors je vous expliquais généralement donc que la sanctification, dans ce sens-là bien sûr, consiste à vous dépouiller de ces œuvres, à ne pas les faire. Mais surtout, à laisser la parole de Dieu entrer en vous et porter son fruit. La Bible dit que Christ nous sanctifie par la parole. Je vous assure, mes amis, il n'y a aucun homme qui, par sa propre force, peut vaincre le péché. Mais je vous ai lu la dernière fois, la Bible dit que la parole de Dieu régénère celui qui l'écoute. Ça veut dire quoi? Elle change ta manière même de raisonner. Elle change ta façon. Donc, il faut non seulement l'écouter, mais il faut prendre le temps de l'appliquer. Recevoir la parole avec honnêteté. Dans Matthieu chapitre 13, il est dit celui qui reçoit la parole et qui la comprend. En fait, il parle des quatre types de sol dans ces passages-là. Il dit, quand la graine porte son fruit, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu. Tout à l'heure, je viens d'expliquer des choses par rapport à la convoitise. Je viens d'expliquer. Si la parole que tu reçois, tu discutes avec elle, tu vois, elle ne pourra jamais produire du fruit dans ta vie. Jamais. Mais quand tu la reçois, tu sais que tu n'appliques pas. C'est ça l'honnêteté. Et tu dis, c'est vrai, c'est les Écritures. Amen. Mais toi, tu sais que tu es hors jeu. Mais Dieu n'a pas demandé à ce que tu sois la personne la plus parfaite. Dis qui tu es, afin d'être sauvé. La parole de Dieu dit ça, mais moi, je n'applique pas. Il faut être honnête. La parole de Dieu arrête de vous sanctifier tant que vous discutez avec ce qu'elle vous révèle. Par exemple, quand je parlais, je parle de la convoitise des yeux. Maintenant, dès que tu entends la parole, tu dis oui, c'est vrai ce qu'il dit, hein, mais quand même, le pasteur, il les a gestes sur d'autres domaines. Convoitise des yeux, tu n'en seras jamais délivré. Prenons l'exemple la dernière fois sur ceux qui ont été délivrés de la cigarette. Qui a été libéré de la cigarette parmi nous? Est-ce qu'il y en a-t-il qui ont été libérés de la cigarette? Je bénis le Seigneur pour ses frères et ses sœurs. Mais vous savez comment Dieu a fait le miracle? C'est parce qu'ils ont compris que ce qu'ils ont accepté, que ce n'était pas bon. Et que ça ne plaisait pas à Dieu. Les gens du monde n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un lien. Ces personnes, quelque part, si vous regardez leur vie, elles ont eu à lutter. À un moment donné, je fume, mais un jour j'arrête et puis je reviens là-dessus. Ces personnes ont été honnêtes avec Dieu. Donc quand ils entendent la parole, elles ne la fuient pas. La parole entre dans leur cœur. La parole les transforme. À un moment donné, la cigarette les dégoûte. Ils se forcent à les dégoûter. Tous les péchés réagissent de la même façon. Tous les péchés. Quand vous entendez une parole, il faut la recevoir avec honnêteté. Dis ce que vous êtes. Il faut l'accepter pour qu'elle arrive dans votre cœur et commence à vous transformer. Amen. Sans que vous vous rendiez compte, à un moment donné, vous n'allez plus commettre ces mêmes choses, les choses dans lesquelles vous êtes tombés auparavant. Amen. C'est en ce sens que la parole de Dieu, nous, sanctifie. Alléluia. Laissez donc la parole de Dieu agir en vous. Il faut la comprendre. Il faut la recevoir en honnêteté pour que Dieu produise son fruit. Ne vous culpabilisez pas. Quand vous recevez une parole, il faut la recevoir. Deuxièmement, c'est éviter les excuses. Les excuses empêchent la parole de Dieu de vous sanctifier. On a lu le mardi dernier l'histoire de Adam et de Ève. Lisez très bien le passage. On ne sait jamais ce que Dieu aurait fait si Adam et Ève s'étaient repentis. Ils ne se sont pas repentis. Dieu vient. Il dit, Adam, comment tu sais que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné du fruit, j'en ai mangé. Réponds-toi. Lisez le passage. Adam n'a jamais sorti le mot, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Niet. On parle à la femme. Le serpent m'a induit en erreur. Et Dieu va commencer à juger. Les excuses empêchent la parole de Dieu de porter du fruit en vous. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que c'est pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier. Parce qu'il y a un vieux palabre entre le figuier et puis Dieu. Quand l'homme a péché, son premier réflexe, quand il s'est rendu compte qu'il était nu, la Bible dit qu'il est parti, il s'est fait une ceinture avec des feuilles de figuier. Mais s'il a couvert sa nudité, pourquoi est-ce qu'il avait honte de sortir? Vous savez, l'homme utilise toujours des feuilles de figuier pour couvrir ce qui le rend nu. La nudité, c'est ta faiblesse. C'est ce qui t'humilie. On a toujours les feuilles de figuier, c'est ça. Ce sont nos justificatifs. Les raisons qu'on prend pour essayer nous-mêmes de nous protéger. Mais malgré que Adam ait utilisé la feuille de figuier, il est resté caché quand même dans la forêt. Dieu dit, où tu es? Il dit, je suis nu. Mais tu dis, t'as mis une feuille de figuier. Pourquoi tu es nu maintenant? Faut sortir un peu. Tu dis, je suis là. Maintenant, Dieu lui a dit, mais pourquoi tu mets feuille de figuier? Il s'est caché. Les feuilles de figuier, c'est toutes les argumentations. Toutes les argumentations, tous nos prétextes, tout ce que nous prenons pour ne pas être honnête avec nous-mêmes. La nudité n'est pas une bonne chose. Amen. Mais c'est Dieu qui peut t'en délivrer. Ils ont pris des feuilles de figuier. C'est pourquoi quand Jésus-Christ s'est arrêté devant le figuier, quand le figuier n'a pas porté son fruit, il a maudit. C'était normal que le figuier ne produise pas de fruit. Hein. La Bible dit que ce n'était pas la saison. Jésus le savait. Mais le figuier avait de belles feuilles. La Bible dit que le figuier avait beaucoup de feuilles. En fait, le figuier, c'est l'apparence que nous donnons sans qu'à l'intérieur, sans que nous ne portions du fruit. C'est ça le figuier. La Bible dit quand c'est arrivé, le figuier avait des feuilles, mais il ne donnait pas son fruit. Nous utilisons beaucoup d'apparats pour couvrir notre vraie nature, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et nous empêchons Dieu de nous guérir. Nous empêchons Dieu de nous visiter. Alors quand Jésus s'est retrouvé devant le figuier n'a rien fait. Jésus a maudit le figuier. En fait, c'est un vieux palabre qui date de depuis la création du monde. Alléluia! Alléluia! Quelles sont les feuilles de figuier que tu utilises pour te couvrir? Les prétextes, les arguments, on te montre tes défauts. Dieu te parle dans sa parole. Non, tu sais, on vient accuser Adam. C'est vrai que elle l'a induite en erreur. Mais il devait dire, Dieu, j'ai péché contre toi. Quand on dit non, on dit, réponds-toi, il dit, Ève m'a induite en erreur.
Je ne dis pas de ne pas reconnaître les sources de vos péchés.
C'est quoi la source? C'est savoir qu'est-ce qui vous a fait tomber. C'est ce qu'on appelle la pierre d'achoppement. Mais même quand je reconnais, je ne m'excuse pas par rapport à cela. Je reconnais ce qui m'a fait tomber pour éviter de retomber une prochaine fois. C'est tout. Ce n'est pas pour m'excuser. On dit, mon frère, mais pourquoi tu es méchant comme ça? Tu sais, dans ma vie, mes parents m'ont fait souffrir. Et j'ai tellement souffert que c'est pourquoi aujourd'hui, je suis devenu méchant. Tu vois, ta méchanceté est une feuille de figuier. Dieu veut maudire ça. On dit non, mon frère, on dit, mais pourquoi tu es réservé comme ça? Je suis réservé. Dans la vie, chaque fois que j'ai voulu m'ouvrir, les gens m'ont fait souffrir. Ce sont des excuses. Depuis ce temps, je suis dans mon coin. Tu vas te mettre en retard pour rien. On dit, Adam, comment tu sais que tu es nu? Il explique l'origine de la nudité. Au lieu de dire, Seigneur, la méchanceté n'est pas bonne. Je te demande pardon. Tu me demandes de parler de ta part, mais je suis réservé à cause de mes blessures intérieures. C'est vrai. Délivre-moi de cette réserve qui n'est pas de toi. Délivre-moi de cette timidité qui n'est pas de toi. Qui est une timidité qui a été causée par des gens. On n'a pas dit, ne justifie pas ta timidité. Vous savez que la timidité empêche un homme de manifester les dons qu'il a reçus de Dieu. Paul dit ceci, il dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Il n'a pas dit Dieu va te donner à nouveau. Hein. Le don était déjà là. Parce que Dieu se revoit de ses dons. Il dit Timothée, ranime le don que tu as reçu du Seigneur. Ranime-le. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. La timidité, la honte, la peur des gens empêchent Dieu de manifester qui vous êtes. Que vous êtes un saint. Là, je commence à toucher les points sur la sanctification de l'âme. Parce que là, je parle de l'être intérieur. Amen. Mais les excuses. Si vous savez, vous connaissez la source de votre chute, il faut le savoir. C'est important pour ne pas retomber une deuxième fois. Amen. Mais c'est pas pour prendre ça comme argumentation de... C'est pas ce qui vous excuse. Et c'est pas ce qui fera que la souillure que ça crée en vous. Voilà. Si tu es tombé dans la boue, tu t'es sali. Même si ton camarade t'a poussé. Il dit, frère, tu es sale. Tu dis, c'est mon camarade qui m'a poussé. Frère, c'est qui est-ce que tu es sale? Ok? Donc tu dis, pardonnez-moi pour la saleté. Et prochainement, tu n'as pas marché à côté de ton camarade parce qu'il aime te pousser dans la boue. Donc, tu vas faire attention pour l'éviter. Amen. Alléluia. Reconnaître la source du péché est une chose. Mais ne jamais utiliser cela comme justification. Tous les actes que vous posez, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Tu es responsable de tes échecs et de tes succès. Tu assumes. Alléluia. Alléluia. Si dans la vie, tu es en train de souffrir de la pauvreté, les choses ne vont pas, ne dis pas oui, c'est parce qu'on ne m'a pas mis à l'école. D'accord, tes parents ne t'ont pas mis à l'école. Mais il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école et puis qui ont réussi. Ce qui attire la pauvreté, qui fait que les gens restent en arrière, ce sont les excuses. Toujours les excuses. Dans la vie, on ne choisit pas comment on est. On ne choisit pas aussi les gens avec qui on va marcher. Mais dès que la parole de Dieu vient à toi, que tu constates que ce que tu vis n'est pas normal, laisse la parole de Dieu agir en toi. Laisse-la travailler. Arrête de t'excuser. Dis à ton voisin, arrête de t'excuser. Arrête de te justifier. Dès que tu constates dans le miroir de la parole que tu as une attitude qui ne correspond pas à la parole, dis Seigneur, pardonne-moi et change-moi. C'est tout. Et reste devant lui jusqu'à ce que sa parole qui travaille dans ton cœur puisse se régénérer et que Dieu ait ôté les semences diaboliques que tu as reçues. Alléluia. Alléluia. Parce que d'où vient le péché? Ça vient de la parole du malin. D'où viennent les mauvaises attitudes? Ça vient de ce que le diable nous a dit. Parce que en nous, nous sommes comme une terre. Et toute parole est une semence. D'où vient la chute de Adam? La chute de Adam vient du diable. Quand Dieu a repris Adam, Dieu dit à ceci à Adam. Il dit, Adam, je vais te punir. Il dit, parce que tu as écouté la parole de ta femme. Mais la parole de la femme, c'était la parole du serpent. Ce n'était pas la parole de Dieu. Le diable vous dit des choses. Si vous les admettez dans votre vie, ça crée en vous le péché. Ça fait que vous avez une attitude qui ne glorifie pas Dieu. Ça fait que vous commencez à avoir un comportement. Mes amis, écoutez-moi. Nous sommes nés de Dieu. En réalité, nous sommes saints. La méchanceté, la colère, les jalousies, ne sont pas notre nature. C'est une nature empruntée. C'est une nature qui vient du diable. Dieu vient vers toi pour t'en délivrer. C'est pour ça, ne couvre pas ces choses. Ne fais pas comme si c'est toi. Ce n'est pas toi. Tu es malade. Alléluia. Comment peut-on soigner un blessé s'il ne veut pas laisser voir sa plaie? On veut parler, on dit tu es blessé. Tu dis non, tu sais. Parce que tu vois que si on va t'appeler, on va dire ton pied, tu as honte. Dis Dieu, je suis blessé. Viens me soigner. Mais le médecin te dit, touchons, où ça te fait mal? Où ça te fait mal là, tu te concentres. Maintenant, où ça te fait pas mal là? Tu dis oui, j'ai un tout petit peu mal ici. Parce que s'il voit où tu as mal, je ne sais pas pour quelle raison, pourquoi tu penses comme ça. Dieu veut te sauver. Alléluia. Ah, si tu comprends, tu vas acclamer le Seigneur. Donc, libérons-nous de cette attitude, de ce comportement acquis de notre père Adam. Attitude de justification. Ça se prie là que la parole de Dieu va donner du fruit dans notre vie. Qu'elle va nous transformer. Qu'elle va produire en nous la vraie sanctification. Le comportement transformé, changé. Donc les choses que je vais dire dans la suite, vous pouvez ne pas les appliquer. Mais quand vous constatez que la parole de Dieu vous dit, vous ne la fiez pas. Vous ne prenez pas les gens, vous dites, ils se sont dit trop la vérité. Oh. Même si tu commettais l'adultère, tu ne fies pas la parole. Les prédications que vous allez à l'église, vous allez à la salle, mais tu dois venir. Tu sais que tu as des défauts et tu vas aller courir dans les endroits où les gens vont t'encenser. Tu vas transformer comment? Tu vas mourir, tu vas aller en enfer pour rien. Amen. Comme si dans l'endroit où nous sommes, c'était un cartel, une réunion des saints, des gens qui n'ont jamais péché. Nous tous, on bénéficie de la grâce de Dieu. Nous tous, on en a bénéficié. Parmi nous, il y en a qui étaient des voleurs, des brigands, des tueurs, tout cela. Jésus nous a délivrés. L'apôtre Paul était un homme dangereux. Un homme dangereux. Toi-même, tes péchés là, tu ne t'attaques pas aux chrétiens. Tu volais, tu pouvais tricher, tout cela. Est-ce que tu travailles pour qu'on tue les chrétiens? L'apôtre Paul a fait ça. Lui, il a travaillé pour qu'on tue les oints de Dieu. Il a le sang. C'est-à-dire, il y a des saints qui sont au ciel. Paul sait qu'il a leur sang dans leur main, dans sa main. C'est pourquoi Paul dit, je suis le plus grand de tous les pécheurs. Il y a d'autres péchés, mais péché pour détruire les enfants de Dieu. Paul a travaillé comme ça. Mais il s'est tellement répandu, Dieu l'a pardonné. Aujourd'hui, Paul, c'est l'un des plus grands hommes de Dieu que le monde ait connu. Dieu peut te transformer. Mais laisse la parole de Dieu agir en toi. Ne la fuis pas. Laisse-la, comprends-la et laisse-la agir dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour laisser la parole de Dieu agir en vous, il faut aussi que vous compreniez très bien ce que c'est que la sanctification positionnelle. Amen. Vous êtes saint. Vous êtes saint. Quand Dieu déclare que vous êtes saint, cette sanctification, il dit que vous avez été sanctifié. Il faut la comprendre. Et il faut la vivre. Trop de gens sont convaincus à 300% qu'ils sont trop souillés. Sachez que Dieu, quand Dieu pardonne les péchés, là, Dieu a pardonné. Le diable a deux façons d'agir. Soit tu es orgueilleux, tu ne reconnais pas tes fautes. Soit, même après t'être repenti, tu crois toujours que tu es pécheur. Ok? Donc, tu rappelles à Dieu les péchés de 1980. Dis à ton voisin, c'est bon. Dès que tu pries, Satan vient t'accuser. Tu crois que ça, là, Dieu t'a pardonné? C'est ce vieux péché de 1979 qui te poursuit jusqu'à ce jour et dont tu recoltes les effets. Tu vois, c'est une façon de ne pas croire que tu es saint. C'est une façon de renier la sanctification de position. Là, tu ne crois plus en Dieu. Et ça, c'est encore l'œuvre du diable. Est-ce que tu sais que si tu écoutes Satan qui te dit que tu es trop souillé, après même ta repentance, après même ta conversion, tu laisses la parole agir en toi, ça va te faire pécher. Voici un message de Satan. Satan dit, on pêche tous les jours. Il y a trop de chrétiens qui croient qu'un chrétien doit pécher tous les jours. Donc quand tu veux te repentir le soir, tu veux prier, tu dis, c'est sûr qu'il y a péché. Un homme ne peut pas faire une journée sans péché. Montrez-moi un verset qui dit ça. Et pourtant, beaucoup de jeunes chrétiens le croient. Si dans ton subconscient, on a écrit dans ton subconscient que tous les jours tu dois pécher, qu'un homme ne peut pas faire une journée sans péché, dans la journée, là, même le soir, si tu n'as pas péché, ton subconscient se met en marche. Il dit, mon ami, aujourd'hui tu as été trop correct. Donc le soir, là, il faut que tu fasses un palabre. Donc pour rien, quand tu attends que quelqu'un te provoque, là au moins tu as un sujet pour te repentir. Ça, c'est une attitude diabolique. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Il faut que vous sachiez que le jour où vous avez cru en Jésus, il vous a lavé. Vraiment. Et c'est vrai. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas vraiment bien lavé, vous allez accepter de vous salir. Regardez quelque chose. Quelqu'un qui sait qu'il est propre et quelqu'un qui sait s'il est sale. Celui qui est sale va être toujours plus attiré vers la saleté. Vous savez ça, non? Si ton habit est déjà sale, si on dit qu'il y a des tasses sales à faire, tu vas les faire. Mais quand ton habit est propre, tu évites la saleté. Amen. Alléluia. Donc si dans ton subconscient, quand tu es convaincu que ton habit est toujours sale, que Jésus n'a jamais lavé l'habit, sans t'en rendre compte, naturellement, tu seras toujours attiré à aller salir encore le vêtement. Mais si tu sais que tu portes un habit tout blanc, le jour où tu as cru que l'habit est tout blanc, et quand les gens se comportent, ils disent, mon frère, attention. Attention.
La Bible dit que nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Alléluia. Donc, tu es en tenue blanche. Et donc, tu fais attention. Maintenant, la sanctification évolutive, c'est non seulement sur ton habit blanc, tu commences à mettre maintenant des trucs pour que ça brille même. Et tu travailles avec des petits ornements, tout blanc. C'est quoi le péché? S'il arrive qu'une tache vient tomber sur la chemise, sur ton habit blanc, tu vas vers le père. Tu dis, papa, il y a une saleté ici. Si tu laisses la saleté va attirer d'autres saletés. Tu comprends, non? Si tu ne te confesses pas, tu ne confesses pas la première tache qui est venue souiller ton vêtement blanc, tu vas t'attirer encore naturellement vers d'autres péchés. Donc un péché entraîne toujours un autre péché. David, quand il a commis l'adultère, il ne s'est pas repenti. Après l'adultère, il a tué. Comme il ne s'est pas repenti de l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba, ça l'amène à devenir criminel. Le péché entraîne toujours le péché. Dès que vous le connaissez, vous savez que votre vêtement est sale. Oh, pardonne-moi, Père. Je marchais, ma chemise blanche a touché de la boue. Le sang de Christ va vous purifier. Tant que vous êtes propre, ça vous donne une attitude. Amen. Et il faut le savoir. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, voici les éléments qui vous permettent de sanctifier le corps. Les attitudes que je viens de décrire sont les mêmes attitudes que vous devez avoir pour la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme consiste à la purification de votre être intérieur. Je veux rappeler ce passage qu'on a lu tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que votre être tout entier, corps, âme et esprit, soit conservé pur. Amen. Donc l'âme peut être souillée. En réalité, dans le message, on doit même commencer par la sanctification de l'esprit. Parce que très souvent, on est attiré vers le péché à cause de notre être intérieur, à cause de notre façon de comprendre les choses. La sanctification de l'âme est la sanctification de notre être intérieur. Les choses qui viennent de notre cœur, c'est là que se trouve le moteur de tout péché. Amen. Tu penses à quoi? Alléluia. Quand je parle de penser, ça touche même la sanctification de l'esprit. Mais c'est toutes les souillures que tu as reçues dans ton âme. Ton âme, c'est quoi? Ce sont tes émotions souillées. Ton caractère qui est souillé. Tes habitudes qui sont souillées. Sanctifier l'âme, suivez-moi très bien, consiste à purifier tes émotions. À purifier ton caractère. À purifier tes habitudes. Sanctifier l'âme consiste à purifier ton caractère, tes émotions et tes habitudes. Amen. Il y a des choses que tu as l'habitude de faire, qui sont venues par ton éducation, mais qui dans leur forme ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Le caractère, il y a des choses que tu as acquises quand tu dis non mon frère, c'est mon tempérament, c'est comme ça je suis. C'est comme ça je suis. Non, si ce que tu es là est contraire à ce que la Bible dit, t'enorgueille pas, fais comme j'ai dit, dis papa, je suis comme ça. C'est beaucoup plus compliqué d'être délivré des mauvais caractères, des mauvais tempéraments, amen, que d'être délivré des yeux de la chair. Pourquoi? Parce que très souvent, les hommes aussi trouvent toujours des excuses pour justifier leur attitude, leur tempérament, leur mauvais caractère, les mauvaises choses qui sont en vous. Alléluia. J'aime lire pour cela Luc chapitre 9, verset 23. Il dit, Luc chapitre 9, c'est plutôt le verset 57. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la sanctification de l'âme consiste à purifier vos émotions, à vous purifier de vos caractères, des suites de votre caractère et de vos habitudes. Pourquoi ces choses-là demeurent très souvent? Parce que il faut pas les confondre avec les œuvres de la chair. Ce sont des éléments qui sont en nous, qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Amen.
C'est-à-dire quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne peux pas le faire à cause de tes habitudes. Quand Dieu te demande d'avoir une telle attitude vis-à-vis d'une personne, tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu parce que toi, voilà comment on t'a éduqué. Vous me suivez si tu suis fait comme ça? Ok? Amen. Voilà comment on t'a éduqué. Voilà comment on t'a formé. Dieu te demande. Lève-toi, va évangéliser. Va porter ma parole. Je vous ai dit que Dieu nous sanctifie comment? Par la parole. Si tu n'obéis pas, tu ne serais pas saint. C'est aussi un péché de ne pas obéir à la parole. Amen. Dieu nous dit d'aller évangéliser. Mais pourquoi on n'évangélise pas? On dit non. Si tu es honnête, je n'évangélise pas parce que j'ai peur. Ne pas aller évangéliser, c'est un péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est rater le but. Péché, ce n'est pas seulement voler. Péché, ce n'est pas seulement mentir. Si Dieu veut que tu pries de 3h du matin jusqu'à 6h, que tu ne pries pas, tu as aussi péché. Amen. Ce n'est pas un péché souillure du corps, mais c'est tout aussi un péché. Si Dieu te demande de faire une offrande à quelqu'un et que tu discutes à cause de ton éducation, tu dis, moi, mon père a dit, l'Esprit de Dieu te dit, va donner. Mon père a dit, chez nous là, tu vois, ce sont les habitudes, ça c'est les habitudes. Amen. Il y a souvent le caractère. Ton caractère ne supporte pas les gens qui parlent beaucoup. Et maintenant, il y a un type à côté de toi, il parle. Donc, naturellement, même, il t'énerve. Il parle seulement, tu vois. Et Dieu te dit, aime-le, va lui parler de moi. Ok? Tu dis, le gars là, lui là seulement, je ne peux pas l'évangéliser. Si il n'a qu'à mourir pendant l'enfer. Oui, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre lui parler. Tu vois, ici tu n'as pas volé, tu n'as pas commis une impudicité, mais tu as péché. Péché comment? En résistant à la volonté de Dieu. Votre caractère, les choses que vous avez acceptées pour dire moi, je ne peux, je ne veux, moi. Ça là, ça gêne Dieu. Alléluia. Certains ont acquis des habitudes nobles. Par exemple, ce qui est très bien, tu vois la maison hyper ordonnée. Propre, méticuleux. Très bien, félicitations, gloire à Jésus. Maintenant, le Seigneur va vous demander, tu vois un frère, sale, désordonné. Dieu te dit, reçois-le, aime-le. Au début, tu appliques l'amour de Jésus. Quand il arrive chez toi, tu as mis ici, tout est dans le désordre. Quand il rentre dans les toilettes, il est ressorti, tout est gâté. Seigneur, comment puis-je? Une telle personne. Mon frère, quittez-moi. Non, je ne peux pas. À partir de maintenant, je ne reçois plus les frères. C'est bon comme ça. Ton caractère peut t'empêcher de manifester le commandement qui dit d'être hospitalier. Juste ton caractère. Amen. Tu dis, non, parce que tu n'aimes pas que les gens dérangent tes habitudes et les choses que tu as acquises. Toi, tu es dans ton coin. Tu aimes rester comme ça. Tu ne provoques pas quelqu'un. Pourquoi on peut provoquer? Tu ne vas pas chez les gens. Pourquoi si les gens vont venir trop chez toi? Tu sais, le jour où Dieu va vouloir te sanctifier par sa parole, subitement, brusquement, il va te faire rencontrer les gens qui sont exactement ce que tu ne supportes pas. Oui, quand tu les vois arriver, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que là, ton caractère boue. Mais Dieu est en train de te délivrer. Alléluia! Vos habitudes, votre caractère, votre émotion, faites un frein à la volonté de Dieu pour vous. Dieu peut ne pas travailler avec vous. Dieu peut ne pas agir avec vous. Amen. Dieu peut ne pas agir avec vous. Regardez le Seigneur. Il est venu, lui le grand saint. Il s'est souillé avec nous pour que nous soyons délivrés. Mais quelquefois le Seigneur nous envoie des personnes. Là, je vais vous expliquer. C'est pas que, parmi nous, il y en a que Dieu envoie en mission. Quand ils sont là, et puis ils pensent, moustique. Ils disent pas la vérité. Hein. Donc quand tu leur parles, il dit, mon frère, tu sais, moi, Dieu m'a appelé à faire des offrandes pour soutenir les missionnaires. C'est pas vrai. Tu n'es pas fait, c'est pas offrande pour soutenir. Viens en mission. Amen. Dieu te dit d'aller sur le terrain. Mais les gens, pourquoi les gens ne vont pas en mission? La réalité, c'est parce qu'ils sont douillés. Non, en mission là-bas. Quels sont les hôtels même? C'est-à-dire, quand ils s'imaginent, depuis là, on va à Bouna, à l'école comme ça. Tout de suite, je dis, nous avons une croisade d'évangélisation à Paris. On est tous logés dans un hôtel 5 étoiles. Il y aura beaucoup de missionnaires, hein? Parce que moi-même, il y a longtemps que j'étais appelé pour aller en mission. Cette mission-là, elle m'intéresse tout particulièrement. Les Français ont besoin de la parole de Dieu. Nous irons parler. Alléluia. S'il y a croisade d'évangélisation à Paris,
C'est même, vous allez voir les gens prier même pour avoir le visa. Oh, Seigneur, ils ont besoin de la parole. Je dois aller. Tu vois, on dit Bouna. Prêt. Allons à Bouna. Quand le gars il réfléchit, il voit les kilomètres en quart. C'est rien. Et puis, c'est même pas l'hôtel là. C'est là comment? Les moustiques, les bêtes. Quand il pense à tout ça, il ne peut pas y aller. Oh, la volonté de Dieu qu'il aille. Vous comprenez? Là, ce n'est pas une affaire de péché, voler, mentir, tricher. Incapable d'obéir à la voix de Dieu à cause de ses habitudes. Il ne peut obéir que quand tout va dans le sens de son éducation, des choses qu'il a acquises, des choses qu'il connaît et qu'il sait. Dis Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi Seigneur. Voilà la sanctification de l'âme. Et c'est là que beaucoup de chrétiens trébuchent. Parce que là, on ne parle pas de voler, on ne parle pas de mentir, on ne parle pas de tricher. Il y a des habitudes que vous avez acquises. Par exemple, qui sont des souillures pour Dieu. Des habitudes de retard. Des habitudes de ceci, des habitudes de cela. Là, au moins, on sait que ce sont des habitudes mauvaises. Mais même quelqu'un qui a l'habitude d'être ponctuel, c'est très bon. Mais lorsqu'à cause de ton habitude de ponctualité, tu es intolérant et tu ne pardonnes pas les gens qui sont là-bas. Il faut éduquer les gens. Il faut dire aux gens, mon ami, sois ponctuel. Ok? Ça, il faut le faire. J'écoutais le pasteur Cassano dans un message, il dit, par exemple, ceux qui viennent tout le temps en retard, c'est quelque chose qui a souillé ton âme. C'est une souillure de l'âme. Il dit, sans t'en rendre compte, en fait, pour toi, le temps n'est pas important. Celui qui est toujours en retard, il ne donne aucune considération au temps. Mais quand tu as dit, le temps est important, il va te dire oui. Mais dans ce sac de tous les jours, il y a une souillure dans son âme. Et c'est une souillure qui est dans l'âme de la majorité des Africains. On n'a aucune considération pour le temps. C'est pourquoi les gens perdent beaucoup de temps. Aller bavarder et dire des futilités. Et ils savent pas que c'est ce qui les rend pauvres. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il y a quelque chose qui dit le temps n'est pas important. Demain, tu peux faire. Tu vas te rattraper demain. Vous suivez? Malgré qu'ils jeûnent et qu'ils prient et qu'ils se sont détournés de toute forme de péché, ils ne sont pas encore saints. Donc Dieu ne peut pas les établir. Ils ne commettent ni adultère, ni vol. Mais ils sont toujours en retard parce qu'ils ont reçu une souillure dans l'âme. Et quand tu leur parles de leur retard, ils te trouvent des prétextes. Comme Adam, il cherche des tenues pour se couvrir. On dit, je suis en retard. Il y avait trop d'embouteillages. Je suis en retard. La nuit, ne sait pas quelque chose m'a passé. Mon nom. Vous allez remarquer que ceux qui sont ponctuels le sont toujours. Ceux qui sont en retard sont diplômés aussi là-dedans. Mais tant que tu vas trouver une excuse, tu n'en seras jamais délivré. Tu dois laisser la parole de Dieu agir en toi. Pour dire, frère, c'est vrai. Quand les gens te disent que tu es en retard, tu dis, c'est un problème. Pouvons-nous prier pour que j'en sois délivré? Il y a une souillure qui est dans ton âme. La Bible dit que Dieu sanctifie par la parole. Tu dois accepter que tu as un défaut. Amen. Pas justifier ce défaut. Pas t'excuser. Même si quelque chose t'entraîne à être en retard. Ça, tu dois éviter ça la prochaine fois. C'est juste pour savoir qu'est-ce qui produit. Quelle est la cause de ta chute. Mais ça ne t'excuse pas. Tu dois te repentir. Excusez-moi, je suis en retard. La prochaine fois, je ferai mieux. Amen. Et il y a des choses, des scripts, des choses qui sont marquées dans notre âme et qui déterminent beaucoup de nos habitudes, beaucoup de nos façons de faire, la manière de faire les choses avec négligence, avec mépris, sans considération, viennent très souvent des souillures de l'âme. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si tu suis, fais comme ça. Je vais vous expliquer, mes amis. En réalité, on prie beaucoup en Afrique, plus qu'en Europe. Mais on évolue moins vite parce que nos âmes sont souillées. Et comme on ne voit pas les choses bouger, les chrétiens donc retombent naturellement dans les péchés qu'ils avaient abandonnés. Ils disent, nous on se sanctifie depuis là, on se sanctifie depuis là, on se sanctifie depuis là, les choses n'avancent pas. Les gens qui ne prient pas là, c'est eux-mêmes qui réussissent, d'eux-mêmes. Nous aussi on va aller faire ça. Non. Regardez très souvent les gens qui réussissent. Ils ont des habitudes que ceux qui ont la mentalité de pauvreté n'ont pas. Tout est une différence d'habitude. D'habitude. Des gens qui savent gérer le temps. Le pasteur Cassandre disait dans ce même message que j'écoutais dans son livre aussi, il en parle, il dit, la mentalité de la pauvreté, c'est ceux qui donnent, qui exposent toujours des problèmes aux autres. Ceux qui deviennent riches, c'est ceux qui solutionnent toujours les problèmes. Vous me comprenez? La richesse vient de ce que tu donnes une solution aux problèmes des autres. C'est quand tu résous leurs problèmes qu'ils te payent. Actuellement, notre église, je veux dire que le Seigneur est en train de nous bénir pour une croissance. Mais pourquoi l'église grandit? Parce que, dans la parole et dans la façon dont on fait, on résout des problèmes des gens. Quand c'est résolu, les gens sont contents et ils bénissent Dieu. Amen. C'est très simple.
Mais si je venais m'asseoir ici tous les dimanches, aie pitié, priez pour moi. J'ai trop de problèmes.
Ah, les hommes de Dieu,
nous souffrons. Nous souffrons. Et je crois que l'église va se remplir pour que les gens viennent pleurer à moi. Donc tous les dimanches, on vient dire, venons écouter notre pasteur, il faut qu'on le soutienne. Prions.
Yeah.
Je ne sais pas comment mes enfants vont manger.
Non.
Le monde n'a pas pitié. La Bible dit cette phrase. On va donner à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il croit avoir. Si tu te présentes toujours comme tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Mais si tu commences à réfléchir et à régler les problèmes des autres, les gens vont te payer.
Amen.
Tous les gens qui ont réussi sont des gens qui ont apporté des solutions. Juste des solutions. Les gens qui ont eu de l'argent, parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. Il y en a qui ont eu de l'argent, mais ils ne résolvent rien. Ils ont eu de l'argent parce qu'on les a nommés. Quand on les enlève de leur position, ils tombent en même temps. Ils chutent parce qu'ils n'ont pas la mentalité de créativité. Dis Seigneur, apprends-moi à résoudre les problèmes des autres.
Alléluia.
L'argent n'est pas loin. L'argent, là, c'est une solution que tu apportes. Un wororo est payé. Pas parce que tu donnes l'argent au wororo. Pas parce que tu aimes son visage. Mais parce qu'il solutionne un problème. Il te permet de te déplacer pour venir au culte et pour aller à ton marché. Donc tu le payes. C'est comme ça. Il résout un problème.
Amen. Ah, si on a compris, on va acclamer le Seigneur. Alléluia.
Ce que j'ai compris, c'est que si je veux grandir avec Dieu, si je veux rentrer dans ma destinée, si je veux ouvrir la porte de Dan, il faut que je change mes habitudes. Et que je regarde dans la parole de Dieu les bonnes habitudes. Et que je reconnaisse humblement mes échecs. Il y a une femme qui me bénit souvent. Dès qu'elle voit quelque chose qui ne va pas dans le ministère, elle parle. Mais vraiment, souvent avec beaucoup d'amour, elle me dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous comprenez? Il faut pouvoir se rectifier. Mon ami Kassano, il y a encore bien d'autres. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Si vous avez reconnu peut-être le ministère il y a 5 ans, mais il y a même 2 ans, 3 ans, et maintenant les choses évoluent, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'écoute. Tout n'est pas venu par révélation. J'ai reconnu qu'il y a des choses que je n'avais pas. L'organisation, les éléments, on te parle. Dieu te parle par les gens. Mais si j'étais là et puis je conservais mon cœur orgueilleux en disant oui, c'est en France mon frère, c'est en France. Prétexte, justification. Non, j'ai compris que ce n'était pas normal, que pour Dieu on doit faire les choses bien. Et je me suis humilié, j'ai dit Seigneur, je vais faire les choses bien pour toi. Avant je pensais que Dieu il s'en fout de tout, donc il faut être négligent. Dieu regarde le cœur. Quand j'ai lu dans la parole de Dieu que dans tout ce que vous faites, il fallait être méticuleux, il faut bien le faire pour le Seigneur, j'ai reconnu que j'étais léger dans mon attitude, je me suis repenti. Mon âme était souillée. Je ne commettais ni adultère ni impudicité, mais je péchais parce que je ratais le but que Dieu a établi pour moi en laissant en moi de mauvaises habitudes. Je me suis humilié, je me suis repenti et Dieu m'a donné les moyens pour rectifier le tir, pour mieux faire. Tant que j'aurai cette attitude, je vais grandir. Mais le jour où je vais commencer à discuter, à me croire un homme de Dieu comme ceux qui m'ont dévancé, à me croire meilleur qu'eux, à discuter avec eux pendant qu'ils parlent, moi je me justifie, je n'évoluerai plus. Là va s'arrêter l'évolution. C'est pareil pour vous, dans tous les domaines de votre vie. Vous laissez la parole de Dieu agir, elle vous sanctifie.
Un autre exemple dans la parole de Dieu, pour que vous voyez combien de fois, quand l'âme n'est pas purifiée, quand ton âme n'est pas sanctifiée, combien de fois ça peut te poser des problèmes dans ta marche avec le Seigneur? Combien de fois tu vas manquer d'être distingué, d'ouvrir la porte de Dan? Il me vient comme ça de penser à l'exemple du prophète Élie, qui est un grand prophète de Dieu. Amen. Donc Dieu vient, il se révèle à Élie, et puis Dieu lui dit... Élie va prophétiser de la part de l'Éternel pour annoncer qu'il ne va plus pleuvoir. Et la parole de Dieu s'accomplit au travers de lui. Dieu va lui donner une attitude. Dieu va lui dire, Élie, lève-toi, va en un endroit qu'on appelle un torrent. Là, il va avoir de l'eau et j'ordonne au corbeau de venir te nourrir. Élie va se mettre dans cet endroit et puis il est là, il attend. Il boit de l'eau du torrent et puis les corbeaux viennent effectivement le nourrir. Comme la sécheresse se faisait, le torrent a séché. Et là encore, il reçoit une autre directive de Dieu. Cette directive-là lui dit d'aller à Sarepta. Dieu a ordonné à une veuve de le nourrir. Amen. Tout le monde n'a pas cette capacité d'entendre la voix de Dieu lorsqu'il s'agit de quitter ses zones de confort ou bien les secteurs dans lesquels on est bien. C'est quoi la zone de confort? Le prophète Élie se trouve dans un endroit où les corbeaux le nourrissent. C'est déjà un miracle. Le cours d'eau lui donne à boire. Ça, c'est un prodige. Élie est dans ce lieu. Mais elle a la capacité d'écouter Dieu qui lui dit de quitter. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette capacité-là. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont habitués à certaines choses, Dieu ne peut pas leur demander d'abandonner les éléments, n'est-ce pas, qui ont pourvu à leurs premiers besoins. Les habitudes. Amen. Ils sont tellement habitués à avoir, à manger de cette façon, à être nourris de cette façon. Donc, quand Dieu leur demande d'adopter une autre posture, de prendre une autre position, ils refusent, ils résistent. Alléluia. Je disais le dimanche dernier, en parlant de la sanctification de l'âme, que nous parlerons de trois aspects dans l'âme. Le caractère, les habitudes, et puis les émotions. Amen. Tout à l'heure, je lirai des passages pour corroborer cela, en fait, pour étayer mieux mes propos. Amen. Le caractère, les habitudes et les émotions. Ces éléments-là peuvent être de grands obstacles à la volonté de Dieu dans votre vie. Ces éléments-là peuvent être souillés. Et je vais expliquer un peu comment, sans te l'expliquer, comment cela peut être souillé. Et Élie a cette capacité-là d'entendre la voix de Dieu. Il va se lever d'un endroit où il était nourri habituellement. Amen. Où Dieu prenait soin de lui, il y avait déjà un prodige qui s'accomplissait pour aller dans un autre endroit. Refuser de faire la volonté dans ce cas-là aussi, c'est un péché. Il dit dans ce cas-là, n'a pas commis un péché d'adultère, n'a pas commis un péché de mensonge, il n'a pas volé, il n'a pas triché, mais Dieu lui dit d'aller chez la veuve de Sarepta. Le péché aurait été qu'à cause de ses habitudes, il demeure dans le lieu, dans sa zone de confort. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit, le mot péché veut dire, dans le sens hébreu, rater le but. Dans le mot péché, il y a deux notions. Il y a la notion d'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est mal. Mais le péché est plus grand que le mot iniquité. Iniquité, c'est ce qui est mauvais. L'iniquité, le mensonge, la tricherie, le vol, ça c'est iniquité. Mais le péché, ce que la Bible appelle péché, ça peut ne pas être toujours iniquité. Amen. C'est ne pas écouter Dieu, ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Même si ce que Dieu attend de toi n'est pas un contraire d'une iniquité. Vous me suivez, non? On connaît l'iniquité. On connaît l'iniquité, on sait ce que c'est. On peut dire tu as volé, tu as menti, tu as triché. Quand on parle de la sanctification de l'âme, on n'a plus affaire à l'iniquité. La majorité des chrétiens ont des problèmes parce que pour eux, péché égale iniquité. Mais le mot péché veut dire rater le but. Rater le but, c'est quand tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu te lèves. Tu as évangélisé X personnes. Tu n'es pas en train d'aller le faire. Tu as péché. Tu n'as pas commis une iniquité. Mais tu as péché. Tu n'es pas dans la sainteté. Amen. Alléluia. Dieu te dit, voilà une personne qui passe, fais-lui une offrande, soutiens-le. Tu ne donnes pas. Tu n'as pas commis d'iniquité. On ne peut pas te dire, là, tu as commis adultère, tu as commis l'impudicité, tu as volé. Non, il n'y a pas d'iniquité, mais tu as péché. Parce que peut-être pour tes raisons d'orgueil, parce que toi, dans ton habitude, on t'a dit que on ne donne jamais l'argent à quelqu'un qui demande. Ou bien, il ne faut jamais donner de l'argent à un mendiant. Ça, c'est ton éducation. Mais aujourd'hui, là, Dieu voulait que tu donnes l'argent à ce mendiant. Mais à cause de ton éducation et de tes principes de vie, tu n'as pas pu faire la volonté de Dieu, c'est aussi un péché. Amen. Alléluia. Donc vous avez ce genre de péché-là qui émane de l'âme, qui émane soit de nos habitudes, soit de notre caractère ou de nos émotions. Des principes que nous-mêmes avons établis en nous, qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu et par conséquent d'être saints. Ça veut dire d'être mis à part pour Dieu. Et vous allez vous rendre compte que tous les hommes dans la parole de Dieu qui ont été distingués sont ces personnes-là qui sont arrivées à dominer ces choses-là, à pour faire la volonté de Dieu. Donc, nous revenons à notre prophète Élie. Élie obéit à Dieu. Il se lève, il va rencontrer une veuve, la veuve de Sarepta, à Sidon. Il arrive et là, cette femme-là n'avait plus rien à manger. Je suppose que quand Élie a entendu la parole, il s'attendait à aller trouver une dame puissante dans une grande villa, très riche, très prospère. Non, il est parti trouver une femme qui était pauvre, une femme qui n'avait plus rien à manger. Et la parole qu'il reçoit dans son cœur, mange le dernier repas de la dame là. Mange son repas. Et alors Élie obéit à Dieu. Il dit, femme, donne-moi ce qui te reste à manger. La majorité d'entre nous, comme nous sommes de bons chrétiens, bien éduqués, on n'aurait pas pu faire cela. Tu es trop bien pour manger le repas, le dernier repas d'une veuve. Oh, Dieu te dit de le faire. Tu es trop bien pour faire ça, non? Quand Dieu va te dire ça, tu dis non. Non, 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 non. Seigneur, je suis désolé. Je t'aime, hein. Je t'adore. Mais je ne peux pas prendre ce repas, Seigneur. Je pensais que tu allais m'amener chez une femme riche qui avait de quoi donner à tout le monde. Et non, 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 je ne peux pas.
je peux pas. C'est plus fort que moi, je peux pas, Seigneur. Élie dit à la femme, donne-moi ce qui te reste. La femme lui dit, c'est tout ce qui me reste à manger. Élie dit, donne-moi, je vais manger. Il y en a qui m'ont dit, bon Seigneur, sauf si vraiment toi-même tu te révèles à elle. Parce que moi, ça, je peux pas dire ça. Il faut que tu lui donnes la révélation. Parce que une chose est de dire, mais si Dieu lui révèle, tu dis, ah, moi-même, j'avais reçu la révélation. Donc, comme l'Éternel a dit que toi et moi, nous avons reçu du Seigneur, que je dois manger ton dernier repas, obéissons à Dieu. Mais te lever, venir dire à la femme, donne-moi. Tu as dit, femme, le repas là, tu as su que tu dois manger? Elle dit, oui, j'ai faim, il faut que je le mange. Il dit, vas-y, si c'est le bon chrétien, on dit, prie bien d'abord, prie bien. Écoute la voix de ton Dieu. Alléluia. Alors, vous voyez ici que l'éducation, la bonne vie de Élie peut l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais Élie obéit à son Dieu. C'est un saint. Il obéit à Dieu. Et lorsqu'il prend le repas de la dame pour le consommer, Dieu multiplie toute la nourriture que la dame avait. Je vous ai dit que les saints sont des personnes qui ont le pouvoir sur toute la création. Ils sont capables d'arriver, de prendre du riz et puis de multiplier le riz, de multiplier le pain. Mais tout ça, pour arriver à cette dimension, ils doivent être saints. La Bible dit, la création attend avec un Adam désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la majorité des chrétiens ne rentrent pas dans la sainteté? Beaucoup de gens arrivent à vivre la sanctification du corps. Mais l'âme, c'est là le problème. Amen. Alléluia. En tant que tu n'as pas la sanctification de l'âme, tu n'as pas le contrôle sur la situation. Tu ne contrôles rien. Et comme les situations te contrôlent, tu finis par te décourager. Parce que si Élie ne mangeait pas la nourriture de la dame, non seulement lui-même il allait avoir des problèmes de faim graves. Et la dame aussi allait commencer à mourir dans la galère. Il allait avoir des difficultés. Et il allait commencer à se plaindre. Dieu, où es-tu? Regarde mon Seigneur, je meurs de faim. Ne m'as-tu pas appelé? Ne suis-je pas ton prophète? Mais il est en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce que quelques jours auparavant, Dieu lui avait dit, voilà ton repas. Mais son éducation, ses bonnes habitudes, l'ont empêché de manger la nourriture de la femme. Or, c'est là qu'était sa bénédiction. Du coup, pas de multiplication. Élie reste dans la pauvreté. La dame reste dans la pauvreté. Et dans la disette, il peut être amené à retourner vers Akab pour dire Akab, pardon. Parce que Élie avait prophétisé contre le roi Akab. Le roi a dit, Akab, pardon, j'ai décidé de faire la volonté de Dieu, mais je meurs de faim. Akab, aie pitié. Dieu voulait prendre soin de Élie. Alléluia. Et Dieu a pris soin de lui. Mais s'il était compromis, s'il suivait ses émotions, ses habitudes, il n'allait pas voir le miracle. Amen. Mes amis, écoutez-moi. Si vous arrivez à passer cette étape, amen, tu prends le contrôle. Tu n'es plus contrôlé, mais tu contrôles. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Quand la Bible parle de renoncer à lui-même, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a ton moi. Ton moi, c'est ta personnalité. Il y a un moment dans ta vie avec le Seigneur où Dieu va te dire de renoncer à ta personne, à ton moi. Mais ton moi là, en l'intérieur de ton moi, il y a de bonnes habitudes. Il y a des choses excellentes. De bonne éducation que tu as reçue de tes parents, de ton père, de ta mère, des choses que tu as acquises par l'expérience de la vie, Dieu te va te demander d'y renoncer. Pour son œuvre. Alléluia. Jésus a dit, Seigneur, je les sanctifie par ta parole. Mais la parole que vous recevez, ça vous sanctifie. Amen. C'est une parole que vous recevez parce que, au fur et à mesure que vous la recevez, elle doit transformer votre corps, elle doit transformer votre cœur, elle doit transformer vos pensées, au point de faire en sorte que votre corps, votre âme et votre esprit soient soumis en tout temps à Dieu. Dès cet instant-là, Dieu vous élève, il vous manifeste comme fils de Dieu. Amen. Ah, si tu comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. La sanctification de l'âme consiste simplement à la renonciation à soi-même. Vous savez, quand on arrive à cette message-là, cela beaucoup fuit. Parce que pour l'iniquité, tout le monde est d'accord. Parce que c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Le problème de la sanctification de l'âme, c'est que ce ne sont pas des versets clairs. En fait, le commandement est fonction de qui tu es. Donc, ce n'est pas un commandement global. Tu vois? Ton problème à l'intérieur, ta personnalité, n'est pas le problème de la personnalité de l'autre. Donc, ce que Dieu va te dire à toi, c'est pas ce qu'il dira à ton voisin. Oh, à vous tous, Dieu dit ne volez pas. À vous tous, Dieu dit ne mentez pas. Donc tout le monde sait que ça c'est universel. Mais le problème de la sanctification du moi, c'est que c'est personnel. Et quand tu vas commencer à regarder les autres, que Dieu ne leur dit pas les mêmes choses, tu lui dis, mais on n'est pas chrétiens ensemble. Nous aussi, allons-y. On vient faire ce qu'eux font. Mon ami fait ça. Moi aussi, je ferai la même chose. Et en agissant ainsi, tu souilles ton âme. Mais ce qui souille ton âme n'est pas la même chose qui souille l'âme de l'autre. Par contre, ce qui souille ton corps est identique à ce qui souille le corps de l'autre. La Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. On les connaît tous. Mais les œuvres de l'âme souillées ne sont pas manifestes. Ce n'est pas toujours manifeste. Il faut de l'honnêteté. Pour grandir dans cette parole, il faut être honnête. C'est pourquoi la Bible dit, la parole porte du fruit. La parole sanctifie ceux qui ont un cœur honnête. S'il s'agit de péchés flagrants, que tout le monde entendra, on dit, frère, ça c'est mauvais, tu peux reconnaître facilement. Mais quand tu vas parler à ton âme, auras-tu l'honnêteté de reconnaître que tu as un problème? Auras-tu l'honnêteté de reconnaître que tes habitudes te font un blocage? Ton éducation est un frein pour toi. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Mais quand il parle de moi, on le reste tout à l'heure ces passages. Quand il parle de la chair, on dit Christ a été crucifié une seule fois. Mais le moi là, on dit porte tous les jours ta croix. C'est une affaire de tous les jours. Amen. Si tu comprends, fais comme ça. Tout le secret se trouve là. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, en ce moment, vous voyez, je bénis l'Éternel. Dieu m'a fait grâce. J'ai recommencé à bien m'habiller, tout ça. Mais une fine période. J'étais tellement attaché aux habillements. Personne ne savait. Avant dans le monde, j'étais un fanfaron. Et quand j'ai commencé à garder une marche avec le Seigneur, Dieu me dit, tu vas renoncer aux habits. Il dit, ah! Et le Seigneur me prend. Parce que vous allez voir que dans la sanctification du moi, il y a la sanctification du moi volontaire. Et puis il y a la sanctification du moi involontaire. Ça veut dire le brisement. Ça veut dire Dieu te fait rentrer dans quelque chose. Toi-même, tu ne veux pas, et puis tu es dedans. Maintenant, il y a un autre aspect. Dieu te parle. Il te dit. Fais ça. Moi, Dieu m'a dit. Il me parle. Je sens que je dois m'habiller bizarrement. Et être dans la rue. Pendant pratiquement 5 à 7 ans, le nombre de fois j'ai porté des chaussures fermées, on pourrait le compter. Je marchais toujours en sandales. Pas parce que je n'ai pas de chaussures. Toujours, sans tapette. Avec des tricots, quelquefois un peu déchirés. Vous comprenez, quand je dirais cela, toi, ce n'est pas ton problème. Tu vois? Tu n'as pas un problème avec l'habillement. Donc, Dieu ne va pas te dire ce qu'il m'a dit. C'est pas parce que Pastor Sanogo, il s'est promené en tapette dans la ville, que toi aussi, tu vas te promener en sandales. On n'a pas le même problème. Amen. C'est pourquoi il dit, les péchés de la chair se manifestent. L'impudicité, c'est pour tout le monde. Mais le moi, c'est chacun. Comme on dit, chacun dans son chacun. Tu règles ça avec ton Dieu. On dit, porte ta croix. C'est la croix est pour toi. Il y a la croix de Christ qui est pour toute l'humanité, qui nous délivre de tous les péchés, des iniquités. Mais ta croix que tu dois prendre là, c'est pas une croix, une chaîne au cou, hein. C'est une attitude de renoncement à toi. Parce que Jésus-Christ, la croix qu'il a portée, c'est quoi? Il y a la croix que Christ a portée qui nous sauve tous. Et vous allez vous rendre compte que la croix que vous allez porter va sauver les autres. Mais Jésus-Christ a renoncé pour notre salut à ses habitudes. La croix de Jésus signifiait qu'il portait le péché de l'humanité. Lui, dans son éducation, dans sa vie, péché, il ne connaît pas. Mais pour notre salut, il y a renoncé. La croix de Jésus, Jésus est Dieu. Dans le ciel, il vit dans le luxe, dans la gloire, dans la beauté. Pour sa naissance, il est né dans une étable. Ça s'appelle la croix. Il a renoncé à la gloire qu'il avait. La Bible dit, il était descendu un temps soit peu au-dessous des anges. Lui, le supérieur, il est devenu inférieur pour que les hommes soient sauvés. Et Christ dit, porte ta croix. Il a porté sa croix pour que nous nous soyons sauvés. Mais ta croix à toi sauvera ta famille, sauvera tes parents. Parce que quand tu rentres dans la sainteté, tu es très dangereux. Alléluia. Ce que tu dis arrive. Jésus est rentré dans la gloire après quoi? Après la croix. C'est après la croix, il traverse les murs. C'était fini là. Avant la croix, il y avait la puissance de Jésus. Mais après la croix, non. Tu rentres dans une autre dimension. C'est pourquoi j'ai dit, il y a la sainteté positionnelle. On a acquis. Mais il y a la sainteté de la porte de Dan. Et cette sainteté-là vient par ta volonté. Il faut que toi-même tu décides de devenir fils de Dieu. On est déjà fils de Dieu. Vous savez de quoi je parle? Mais je fais une différence entre enfant de Dieu, ça veut dire le chrétien qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore entré par rapport à Dan, qui n'est pas encore saint, qui n'a pas encore la maturité spirituelle, je les appelle les enfants. La Bible dit que aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, les choses sont pour toi. Mais parce que tu es un enfant, tu ne comprends pas les choses de Dieu, Dieu ne les met pas à ta disposition. Or, la croissance spirituelle, être enfant spirituel ou bien être mature spirituel, n'est pas fonction du nombre d'années dans l'église. Alléluia. C'est fonction du choix de chacun dans son intimité avec Dieu. Quelqu'un peut faire 30 ans de vie chrétienne, mais être encore charnel, parce qu'il n'a jamais accepté de renoncer à lui-même. Alléluia. Alléluia. La maturité spirituelle, maturité, c'est une sorte de maîtrise. En fait, quand tu as fini de vaincre ton moi, tu te maîtrises. La maîtrise du moi. C'est-à-dire ton corps, tes désirs ne te conduisent plus. C'est toi qui conduis tes sentiments, tes émotions, où tu veux que ça aille, mais tu n'es plus dirigé par les circonstances. Alléluia. Le temps, les saisons, la famine, les crises ne déterminent pas ta vie. Quelle que soit la saison, tu cours vers ta destinée parce que tu es un saint. La nature entière reconnaît que tu es un saint. Elle t'ouvre les portes. Isaac, pendant qu'il y avait la famine, la sécheresse, lui, il a semé. Il a dit à la terre, même si tu n'as pas d'eau, la parole qui vient de Dieu est de l'eau. Donne le fruit. Et la terre a donné son fruit au centuple. Et vous allez voir que les saints hommes de Dieu, ils ont eu à déjouer. Quand la nature était contre la volonté de Dieu à un moment donné, ils ont pu la planer. Mais quand tu n'es pas un saint homme de Dieu, tu ne peux pas parler à la nature. Tu ne peux pas parler aux circonstances. Tu parles aux circonstances, les circonstances te parlent à toi aussi. Tu leur parles, elles te parlent. Tu cries, tu parles, elles font de la résistance. Tu es obligé de gêner, prier, crier, veiller, crier pour qu'elles bougent un tout petit peu. Et tu te poses la question, mais ne suis-je pas fils de Dieu? Non, tu es encore enfant. Alléluia. Tu es encore un enfant. Trop de personnes ont peur de passer le voile de la croix. Ils ont peur de s'engager parce que mourir, c'est pas évident. Parce que là, tu vas mourir. Ta croix, là, tu vas mourir. Même Jésus, même, il a eu des problèmes. Il a dû rester à Gethsémani jusqu'à Dieu vienne le fortifier. Dit, Père, que cette coupe s'éloigne. Mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Mon histoire d'habit, ça, c'était les premiers petits mois, là. Parce que la croix, là, c'est tous les jours. Mon histoire de vêtements, tu m'as brisé. Voilà mon ami Jonas, il me voyait, hein, n'est-ce pas, à Gagnoua. Les chaussures trouées, une fois même, j'étais le comble. Je me lève le matin, je vais à l'évangile. Dieu dit, lève-toi. Tu veux porter un tricot déchiré. Bah. Et qu'une chaussure, mais tellement vilaine. Et la chaussure là, c'est comme si les souris ont bouffé. Le sky est passé. Ah. Le tricot là, il y avait un gros trousseau quand je dois m'habiller fourré. Et puis, avec un porte. Ah. Avec un porte-document. Comme si tu étais sapé, tu voulais te saper, mais. Tu vois, non? Parce que tu peux t'habiller comme si on sait que tu vas au champ. Mais on sait que. Et tu peux être dans un quartier, et puis bon, quand tu t'habilles, on sait que bon. Tu faisais des travaux, et puis tu es sorti dans le quartier, donc le truc est déchiré. On sent que tu as une personnalité, mais bon, c'est par accident que tu t'es trouvé dans la rue, quoi. Et ça, là, je ne peux pas faire comme si c'était comme ça. Et c'était mon sérieux. Et Dieu dit, il faut sortir, va évangéliser. Ah, me voilà dans la ville, avec un porte-document, un truc, on dit, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! Les frères me regardent, lui, il est bizarre. Mais c'est quel frère? C'est quel frère? Mais il est bizarre ce gars-là. Tu vois, les gens parlent. Tout ça, c'est pour tuer en moi le désir de plaire aux hommes. Tu as tué en moi le désir de plaire aux hommes, sinon de plaire à Christ lui seul. De ne plus rechercher, c'est forcément que les gens t'apprécient. Mais quand tu ressens la volonté de Dieu, tu vas jusqu'au bout. Quand tu ne renonces pas au moi, dans tes habitudes, dans ton caractère, il y a forcément nous ce désir-là d'être reconnu par les gens. Qui empêche beaucoup de gens de toucher certains domaines de la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. Dieu dit, va faire. Mais ils savent que s'ils font, tout le monde va les critiquer. Tout le monde va parler. Les gens vont parler. Ils ne peuvent pas aller. Et ils s'arrêtent devant. Non. C'est nous croire que je ne peux pas prendre. Et ils restent des enfants dans leur vie chrétienne. Ils ne rentrent pas dans la notion, dans la dimension de fils pour dominer. Oh, mais que ce soit, tu prennes une décision. Tu sais, la Bible dit que Dieu nous sanctifie par sa parole. Si tu viens et que tu entends ces choses, c'est parce qu'elles agissent en toi. Elles sont en train de te transformer, en train de t'amener dans une dimension que tu n'avais pas atteinte jusqu'à présent. Tu vois, tu as besoin de te tremper dans la parole de Dieu, d'écouter ces choses. Moi, je les ai écoutées. Vous savez, en fait, pour avoir la force de faire ces choses-là, j'ai plus le temps d'écouter et de lire beaucoup les gens qui ont vaincu le moi. Quand j'ai fini avec le péché, les péchés évidents, impudicité, mensonge là, j'ai pris le temps sur le moi. Je lisais la vie des saints hommes de Dieu. J'aime beaucoup les témoignages. Et vous voyez, à force de lire, c'est la parole. C'est pourquoi la parole te sanctifie. Tu vois, tu prends le temps, tu es honnête avec toi-même, tu reconnais tes faiblesses. Et puis, à un moment donné, tu sens que tes attitudes commencent à changer. Tu commences à avoir la force de faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Tu commences à avoir la force d'agir comme tu n'étais pas capable d'agir hier. Et puis, subitement, tu te sens encore plus fort parce que tu es dans la parole, parce que tu entends ces choses. Tu ne fuis pas devant la parole, mais tu restes devant elle. Tu reconnais tes faiblesses, elle te transforme. À un moment donné, tu évolues, tu rentres dans une dimension. Et puis sans faire d'effort, tu es capable d'appliquer ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis après, il y a eu trop d'autres brisements. Ça, c'était les brisements volontaires. C'est-à-dire, Dieu me dit, va faire ça. Dieu me dit, va faire ça. Dieu me dit, va faire ça. Sur le plan émotionnel, j'étais à Yamoussoukro. Et je, naturellement, à cause de l'amour de Christ, j'aimais tous les frères. Tous les frères. Et à un moment donné, l'église a commencé à me persécuter. Vous savez que les païens te persécutent, tu comprends. Même ta famille, même tu comprends. Mais quand tes propres frères, là, Dieu voulait changer mes émotions. Vous savez, en ce moment-là, tu ne dois pas garder des rancunes. C'est ça qu'on appelle tu renonces. Parce que quand tu es rancunier, là, ça veut dire que tu n'as pas renoncé à toi. Parce que quand tu es rancunier, ça veut dire il m'a fait mal. Ton m'a fait là, mal. Ça veut dire moi. Dieu dit renonce à ça. On t'a fait mal. Si tu es mort, là, est-ce qu'on peut te faire mal? Mais tu es vivant. Que les gens te vexent, que les gens t'offensent. Quand Dieu va vouloir sanctifier vos émotions, frère, tu vas rentrer dans une aventure émotionnelle. Et puis Dieu dit, reste serein. Tu as envie de dire des mots aux gens. Les gens te font mal, les gens à qui tu t'es attaché. Dieu vient sanctifier tes émotions. Et, alléluia, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui t'arrive sans que Dieu l'ait voulu. Dieu est le maître de la situation. Il sait ce qu'il fait. Faut pas te fâcher contre les gens. C'est l'Éternel qui a permis que ça t'arrive là. Faut regarder. Et s'il voulait te protéger, il t'aurait gardé. Mais il t'a pas protégé, puis les gens t'ont fait le mal. Donc il a un but.